l'amour de Sion, Israël, mythe et réalité. Bonjour, nous sommes Stéphanie Soufir et Michael Barzvi. Nous vous proposons une série d'émissions dédiées à Israël et au sionisme. À travers l'histoire, les grands événements qui ont marqué Israël, à travers les personnages qui l'ont façonné, les idées et les mouvements de pensée qui ont forgé cette histoire. Notre but est de comprendre, d'expliquer, de donner des faits et des éléments de réponse aux questions que tout le monde se pose sur Israël et le sionisme. Aujourd'hui, notre émission va être consacrée à Gordon. Bonjour Michael.
Bonjour Stéphanie.
Gordon, c'est le sionisme socialiste.
Comment je crois que c'était une rue à Tel Aviv.
Aussi, et une piscine, il me semble également. Tout d'abord, que signifient les initiales AD Gordon ?
Aaron David.
D'accord, merci.
Mais c'est curieux parce que c'est quelqu'un qu'on a toujours appelé AD Gordon.
AD Gordon, voilà. D'accord.
Bon, c'est une façon de l'appeler, mais c'est parce que le personnage est assez attachant. Donc il a un côté un peu spécial.
D'accord.
C'est d'ailleurs pour ça qu'on lui consacre une émission. Alors, Aaron David Gordon, c'est un leader sioniste très, très particulier qui a joint, je dirais, la pensée à l'action, comme beaucoup d'autres, mais lui, d'une façon très spéciale, c'est-à-dire que de penseur, d'intellectuel, il est devenu agriculteur, alors qu'il n'y connaissait absolument rien.
C'est ça, il est arrivé en Palestine à l'âge de 48 ans pour défricher la terre.
Oui. C'est quelqu'un qui a représenté, je dirais peut-être, qui représente à mes yeux peut-être l'image de cet idéalisme sioniste. Mm-hmm. C'est vraiment quelqu'un qui a décidé de transformer, je dirais, ses paroles en actes. Et qui a considéré que cette révolution sioniste ne devait pas être seulement une révolution pour les autres, mm-hmm. mais d'abord pour lui-même. Et il sait, je dirais... Je ne vais pas dire infligé, mais enfin, il s'est imposé une discipline de vie à un âge qui, pour cette époque, était déjà un âge quand même assez avancé. 48 ans, ce n'était pas très jeune à cette époque. Et donc, c'était quelqu'un qui n'avait aucune expérience du travail physique, ni du travail de la terre, du travail manuel, et qui, du jour au lendemain, va commencer à piocher, à travailler la terre. Et lorsqu'il était fatigué, lorsqu'on lui proposait de se reposer, il a toujours refusé d'être traité différemment des autres. Il a voulu absolument être ce sioniste réalisateur, on dirait. Il est né en 1856, tu viens de répéter. Ses influences sont multiples, mais tout particulièrement, je dirais, deux ou trois philosophes l'ont inspiré. Le premier, évidemment, c'est Tolstoï. Tolstoï qui a... dans sa vision d'un socialisme, ce qu'on pourrait appeler un socialisme de la terre, peut-être même avec une inspiration quasi mystique de relation entre l'homme et la terre. Cette relation entre l'homme et la terre, pour lui, c'est la source première du judaïsme, qui est une religion, au départ, une religion de la nature, une religion qui parle des cycles de la nature, des cycles de vie de la nature. Et puis, bien évidemment, il y a chez Tolstoï, comme donc chez Gordon, un rejet d'un socialisme d'inspiration marxiste, c'est-à-dire de ce qu'on a appelé le socialisme scientifique. Pour lui, ça n'est pas le résultat, je dirais, d'une dialectique de l'histoire, mais c'est vraiment accomplir un travail parce que ce travail nous permet de nous régénérer en tant qu'homme, en tant que peuple aussi. Et donc, il a été évidemment influencé par Tolstoï, mais également par deux autres philosophes français, non, puisque Rousseau n'était pas français, était suisse, mais disons philosophe français ou francophone. Rousseau, qui évidemment a parlé de cette relation de l'homme à l'état de nature, donc cette façon de vouloir que de cette bonté naturelle de l'homme. Et puis, quelqu'un qui est également a écrit à la période où Gordon vivait et qui a inspiré cette idée du dynamisme qu'on peut retrouver dans justement la pensée et le mouvement, qui est Henri Bergson.
D'accord.
Et donc, ce sont deux philosophes qui ont influencé la conception de Gordon. Son originalité, c'est que pour lui, l'homme et le peuple sont finalement les deux faces d'une même réalité qui s'appelle, disons, le monde en général, mmh. la nature. Et lorsqu'il vient, pour lui, un homme ne peut se réaliser en tant qu'homme que dans sa relation avec la Terre.
D'accord.
C'est-à-dire un homme qui ne réaliserait pas, qui ne serait pas en relation avec sa Terre, avec une Terre qui ne serait pas en mesure de la travailler, de la cultiver, de la soigner, de l'appréhender aussi, ne pourrait pas se réaliser totalement mmh. en tant qu'homme. Alors évidemment, il s'agit là d'une... On a dit à propos de Gordon que, au fond, c'est une forme de religion du travail. C'est-à-dire cette idée que, non pas la religion au sens uniquement de la prière, mais au sens où, premier du mot religion, mmh. qui veut dire lien. C'est le lien, c'est relier. C'est une façon de se relier à la terre par le travail. Mmh. Alors, évidemment, ce que racontent les textes bibliques, tout le monde connaît, c'est que la nation juive, au départ, est une nation agricole, une nation qui vit du travail de la terre et de l'élevage. Et donc, le travail de la terre, c'est un acte religieux dans la mesure où, par ce travail, nous sanctifions la terre. Mmh. Donc, c'est ce côté un peu mystique qu'on donne à la conception de Tolstoï et de Gordon, évidemment. Il ne s'agit pas de considérer ce socialisme comme uniquement une idée politique, mais c'est également une idée métaphysique, d'une certaine façon. C'est une façon de se relier à des forces naturelles. Et pour lui, ça dépasse la politique. La politique, c'est réducteur aux yeux de Gordon. Il faut dépasser, d'une certaine façon, la politique, même si elle existe. Alors, pour lui, la politique, c'est quelque chose qui étouffe, en fait, le peuple et qui ne le libère pas. Ce qui le libère, ça va être le travail et l'action de sanctification de la vie par le travail. Mmh. C'est une conception qui, malheureusement, dans la vision socialiste, a été, je dirais, mise en retrait par la victoire ensuite du bolchevisme et donc par cette vision, je dirais, plus politique et plus, je dirais, d'une vision de lutte des classes, qui était la vision marxiste. Pour lui, il ne s'agit pas d'une lutte de classe, mais mmh. il s'agit d'une vision de relation entre l'homme et la nature par le travail. Et donc le travail est donc une valeur, et la vision politique pour lui une vision étriquée, qui ne permet pas justement à l'homme de réaliser tout son, je dirais, tout son dynamisme, tout son... Enfin, c'est en cela qu'il est bergsonien, c'est-à-dire que la réalisation de l'homme, elle dépasse la politique. Il n'y a pas que la politique et la victoire du prolétariat, comme on voit dans la vision marxiste, qui est une réalisation de l'homme. L'homme doit se réaliser par toutes les voies de son travail, et pas seulement dans l'aspect social ou politique ou économique uniquement.
Et ici, dans ce qui nous intéresse, l'homme, c'est l'homme sioniste, l'homme, le futur, oui. si je peux dire, israélien.
Oui.
C'est construire cette future société israélienne de cette manière-là.
Oui.
En commençant par travailler la terre,
oui.
on pourra ensuite développer toute autre sorte de,
voilà,
de
alors
culture.
Oui, bien sûr. Alors, il y a une, je veux dire, une vision cosmique, hein, une vision qui est cosmique de la relation de l'homme à la terre. Cette vision, c'est une véritable union, en fait, une unité entre l'homme et la nature. Tous les hommes sont des parties de cet organisme que constitue le cosmos. Et donc l'idée que nous avons d'un homme que nous rencontrons, ou d'un peuple, mm-hmm. c'est une idée fragmentaire. Donc on n'a jamais la possibilité de voir l'ensemble de ce cosmos. Mais il y a dans cette communion, disons, entre l'homme et la terre, il y a des intermédiaires. Mm-hmm. Et les peuples sont les intermédiaires, justement, de cette relation avec la terre. Parce qu'on ne naît pas citoyen du monde, on naît à un certain endroit. Et donc c'est la nation qui va être le lien entre la vie cosmique et la vie spirituelle de l'homme, parce que l'homme vit à un certain endroit. C'est justement en assumant son appartenance à la terre sur laquelle il doit vivre, qui lui appartient, donc cette appartenance qui va lui permettre d'exprimer toute sa force et de se réaliser totalement. Évidemment, la puissance créatrice, elle est décuplée par le fait que l'homme est sur sa propre terre.
D'accord.
Et donc les racines, c'est à la fois l'homme, la famille, et d'une certaine façon, le développement de tous ces noyaux, la famille, les tribus, les nations, n'est pas explicable uniquement par l'économie, par les forces économiques. Il y a quelque chose de plus. Pour lui, le fait de réduire, disons, l'histoire à une lutte entre des forces économiques est quelque chose de réducteur. Mais peut-être... D'accord. Que tu vas nous lire un très beau texte de Gordon qui explique un peu sa conception.
Oui, absolument. Nous venons en Eretz Israël pour y créer les pensées, les croyances vivantes, l'art vivant, la poésie de la vie, la morale qui est dans la vie, la religion qui est dans la vie, et, s'il m'est permis d'ajouter, pour dévoiler dans toutes ces choses le lien vivant entre le présent et le passé. Nous venons créer la vie, selon notre esprit et notre voix. Mais... j'entends être clair, même si les choses semblent évidentes. Ne sommes-nous pas les enfants de ce Dieu qui a tout créé de son Verbe ? Aussi, quand je dis « créer la vie », suffit-il pour faire advenir une réalité nouvelle de s'exprimer par la voix qui est celle de Jacob, d'un seul mot réducteur ? C'est pourquoi il faut le dire simplement. Tout ce que nous voulons faire en Eretz Israël, c'est créer de nos mains ces choses qui font la vie, exécuter de nos mains propres ces tâches, ses œuvres et ses travaux de toutes sortes, les plus sophistiqués, nets et simples, aux plus brutes, flous et difficiles. Et ainsi éprouver ce que ressent un homme qui s'attelle à l'ouvrage, concevoir à notre manière tout ce qu'il vit. C'est alors que nous aurons une culture, puisque nous aurons découvert la vie.
Très beau texte.
Absolument, oui.
Oui. Alors il y a cette écriture magnifique de Gordon, qui était écriture, je dirais presque absolument. Lyrique. Il y a une espèce de lyrisme dans cette vision. Évidemment, une vision... très idéaliste, très, je dirais, très, très, une vision de, je dirais, d'une relation de communion finalement entre les individus, et cette communion entre les individus, elle n'est possible que par le travail de la terre. Ça, c'est une vision magnifique, évidemment une vision, je disais, un peu idéaliste, mais qui malgré tout nous permet de comprendre que finalement le travail, c'est la première chose, c'est le premier objet de l'univers, disons, à la disposition de l'homme. C'est la première chose que nous avons à faire quand on a la terre, c'est de la cultiver, c'est de la soigner, c'est de la travailler. Et donc, pour lui, dans l'idée même de nation, il y a un élément cosmique qui constitue, en fait, le principal ingrédient de ce qu'on pourrait appeler la nationalité, la nation, le peuple, c'est cette capacité à travailler une terre. Alors, évidemment... il dit à un moment dans un autre texte, cet élément cosmique peut être défini au mieux comme la synthèse du paysage naturel de la patrie et de l'esprit du peuple qui l'habite. C'est là la source principale de vitalité et de créativité d'un peuple, de ses valeurs culturelles et spirituelles. Donc tout groupe d'individus qui peut constituer une société, disons, au sens purement mécanique ou organique, lorsqu'il y a la présence de cet élément cosmique, de ce travail, de cette relation à la Terre, eh bien ça devient... une nation. C'est comme ça qu'il envisage cette régénération, cette renaissance, on pourrait dire, finalement, du peuple juif. Gordon a une influence, je dirais, très importante sur le mouvement sioniste parce qu'il a apporté, je dirais, ce souffle. Il y a quelque chose dans l'écriture de Gordon et qui est vraiment de l'ordre, je dirais, du souffle, de l'enthousiasme, de quelque chose qui est porteur. Il y avait une espèce de regard un peu curieux, parce que c'était un personnage avec une grande barbe. Il ressemblait à une espèce de prophète, comme ça, avec une grande barbe blanche. Et donc, il était, je dirais, pas du tout, le nouveau sabra musclé et costaud qui allait construire cette terre. Mais finalement, il avait une façon d'exprimer cette communion entre l'homme et la terre par le travail. Ça, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, il y a eu un des plus grands mouvements de jeunesse sioniste en Pologne, ça s'appelle la Gordonia. Donc, il a eu une influence. Il est mort dans les années 20, 1922. Mais son influence a continué à exister au sein du mouvement sioniste socialiste. Vraiment, il est probablement une des personnalités les plus attachantes de ce point de vue-là. Et dans cette façon, justement, de lier le destin individuel et le destin national. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Il explique justement cette façon dont l'homme peut être une petite cellule vivante d'une nation et qui donc, cette nation est également une cellule de l'univers. Enfin, tout est lié. C'est cette vision tout à fait cosmique. Et évidemment, plus il y a de cellules individuelles, vivantes, vigoureuses, plus la nation sera riche. Et donc pour cela, il y avait ce côté, effectivement, plus la nation est une forme de synthèse entre le tout et les parties, et donc plus l'individu peut, je dirais, se dépasser, et la nation également s'enrichir, se régénérer, renaître et avoir de la force. Alors, Gordon avait coutume de dire, il utilisait une métaphore qui disait finalement, une nation, c'est comme une plante. Chaque nation est responsable aussi bien des individus que de l'humanité, et donc cette plante, elle a vocation à pousser, mais pour qu'elle pousse, il faut la cultiver. Et donc, d'une certaine façon, et c'est là peut-être ce qui est le plus intéressant dans la conception, je dirais, philosophique de Gordon, pour moi qui suis philosophe, donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est que pour que les Juifs redeviennent des hommes, au titre d'autres hommes comme d'autres nations, il faut qu'ils redeviennent un peuple. C'est-à-dire un Juif qui vivrait en tant que Juif assimilé, c'est ce qu'ils disent dans un texte. Il dit justement que les Juifs ne doivent pas abandonner leur judéité. Hein. Il dit, voilà, nous devons éduquer et ressusciter l'homme qui se trouve pleinement en chaque Juif et dans toute l'ampleur et la profondeur que comporte cette notion d'homme, qui comprend aussi celle de Juif. Ce dernier ne peut être un homme complet sans être un Juif complet. De même pour le Russe. Les partisans de l'assimilation se méprennent grandement quand ils prétendent qu'on est d'autant plus homme qu'on est moins Juif. Bien au contraire, moins on est Juif et moins on est homme. Donc quelque part, c'est en redevenant un peuple qu'un Juif peut redevenir effectivement un homme. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'on a toujours l'idée que ça vient dans l'autre sens. Et là, en fait, c'est par cette façon de redevenir un peuple que nous pouvons redevenir des hommes à part entière.
Nous allons faire une petite pause musicale et nous revenons tout de suite.
עכשיו קצת קשה, אתה חושב לוותר, אתה הרי לא הטיפוס שנלחם בשיניים, הופך שולחנות לעתים רחוקות, גם זה רק כדי לנקות את הרצפה עם קצת מים, בבית קפה בפינה אתה דופק הופעה בין השכבות של העוגה, הם מוחאים לך כפיים כשזה נגמר אתה בחוץ, מחפש איזה תירוץ רק לא לחזור למרירות שמחכה לך בבית, כי אלו ימים שאומנות הפכה ליומנות, אתה מלחין תאריכים ושעות בשבוע, משחק משחקים, מנהל מאבקים עם ברביות וחיילי צעצוע, עם הזמן אתה אומר זה רק ילך ויסתדר, מחר בבוקר נתעורר ליום חדש נפלא, אתה אומר זה רק ילך ויסתדר, מחר בבוקר נתעורר ליום חדש נפלא. אתה נגרר לאיזה פאב והיא יושבת על הבר, וזה כבר ממש מאוחר, בערך 4:30 משחקת בשיער, ואז רושמת המספר, ודווקא אז אתה נזכר בחיוך של האקסים, לך תסביר לה עכשיו שאתה עדיין מאוהב, וזו אחת שרחוקה מכאן אלפי קילומטרים, שנתנה לך תחושה שאתה באמת מאושר, אבל זו חרדת הנטישה שהתעקשה באמת, הרי כי לא עשית לה טוב ולא הצלחת לכתוב, ובכלל יעזוב אם עצמה מסובכת, אז באותה נקודה כשהיא כבר ארזה מזוודה אתה מרפא מידה ונותן לה ללכת, ועם הזמן אתה אומר זה רק ילך ויסתדר, מחר בבוקר נתעורר ליום חדש נפלא, מחר בבוקר נתעורר ליום חדש נפלא. חדרים במרכז תל אביב ב-522 דולר בחודש. כמובן ההורים עם הרוב הם עוזרים לך, זה עולה רק בשלווה ובחופש, אבל זה עוד נושא לשיחה בינם לבינך, על חשבונם ארוחה הבא. תיילת של יפו, הם נורא מודאגים שאתה לא ילד רגיל, וזה לא רק הדגים, יש איזה משהו מסריח פה. הם עוד מקווים שתהיה איזה תלמיד מצטיין באוניברסיטת ייל, תנחית אדם על השמש, הגיל בלשון, הפסנתר בסלון, הסמים בארון, לא נותנים איזה רמץ. ועם הזמן אתה אומר זה רק ילך ויסתדר, מחר בבוקר נתעורר ליום חדש נפלא. מחר בבוקר נתעורר ליום חדש נפלא. אתה אומר זה רק ילך ויסתדר, מחר בבוקר נתעורר ליום חדש נפלא. ועם הזמן אתה אומר זה רק ילך ויסתדר, מחר בבוקר נתעורר ליום חדש נפלא.
Alors Michael, dis-nous-en un peu plus sur cette fameux homme-peuple.
Alors, je dirais l'unité supérieure d'une nation, c'est-à-dire le degré le plus élevé d'une nation, c'est l'apparition de ce que Gordon appelle un peuple-homme. En hébreu, Am Adam. Mm-hmm. Et donc, pour lui, c'est un vrai lien entre Am et Adam.
D'accord.
Et bien évidemment, on le sait, en hébreu, le mot Adama vient du mot homme. Donc, c'est Am Adam, mm-hmm. Adama.
Je vais vous lire un petit texte, justement, sur ça. Le peuple à visage humain. En général, sans peuple homme, pas d'homme homme, pas d'individu homme. Et personne autant que nous, Israélites, ne devrait insister sur ce point. Nous avons été les premiers à déclarer que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et parce que nous avons supporté tout ce que cette idée réclamait de nous, et non tant parce que nous sommes meilleurs que les autres, nous devons accomplir un nouveau pas en déclarant « Le peuple doit être créé à l'image de Dieu ». Pour prix de nos souffrances, sans pareil au monde, nous avons acquis le droit d'être les premiers à œuvrer dans ce sens. Et nous trouverons dans nos souffrances la force nécessaire pour nous en acquitter. De même qu'on extrait un gaz lumineux de détritus, de même tirons-nous de nos persécutions et de nos douleurs une lumière radieuse que nous mobiliserons à la création d'un peuple homme, un peuple à l'image de Dieu.
Oui, alors ça c'est une idée d'ailleurs qu'on retrouve aussi dans le marxisme. Dans le marxisme, on retrouve aussi cette idée que finalement, parfois on retrouve la capacité de se reconstruire en allant tout au fond. Mm-hmm. C'est en allant finalement au fond de l'histoire et je dirais dans les bas-fonds qu'on peut remonter. Et quelquefois c'est par la souffrance finalement qu'on peut se reconstruire. Mm-hmm. Ça c'est une idée qui est, je dirais, du christianisme jusqu'au marxisme, on retrouve cette idée de l'importance de la souffrance dans la construction de la personnalité de l'homme et également de la construction des peuples, mm-hmm. qui se font finalement par la souffrance. Mais là, il y a une idée qui est peut-être un peu différente, c'est que cette nation juive, lorsque elle se reconstruit, elle se reconstruit par quelque chose dont elle avait été privée, mm-hmm. qui est le travail de la terre. Donc ça n'est pas seulement une souffrance, mais c'est quelque chose en plus, c'est une absence. Mm-hmm. Donc il y a eu l'absence de quelque chose. Les Juifs ont été privés de quelque chose qui est fondamental pour l'homme, qui est le travail de la terre. Et donc, ce travail de la terre, c'est pour eux, aux yeux de Gordon, le premier moteur de l'univers, parce que ça lui donne cette force de créatrice qui lui permet de relever son âme et de relever l'âme de son peuple. Donc, quelque part, retrouver ce travail de la terre, c'est, je dirais à la limite, même bien plus que la souffrance.
Mais qu'est-ce que ça dit justement sur l'image que Gordon a justement de la diaspora, si cette diaspora a été privée de cette chose première qui est de cultiver la terre ?
Alors, cela dit plusieurs choses, c'est-à-dire cela explique finalement une idée fondamentale, c'est pourquoi, au fond, revenir en Eretz Israël. C'est ça la vraie question du sionisme. C'est ça la vraie question. On peut se dire, c'est une question qu'on pourrait poser en général sur le sionisme. Finalement, on peut être juif, mais pourquoi le juif a-t-il besoin d'Eretz Israël pour exprimer, je dirais, sa judaïté, pour se vivre en juif, c'est-à-dire, mais pour lui, ce qu'il dit, nous sommes venus en Israël pour faire revivre le peuple et la terre. Si on ne fait pas revivre la terre, on ne pourra pas faire revivre le peuple. Mmh. Donc ce peuple finira par disparaître. Et là, il y a, dans l'idée que l'exil a marqué le caractère national et a transformé les Juifs d'une certaine façon en parasites, puisqu'ils étaient privés du travail, de cette valeur du travail. Et donc le parasitisme dont on accuse les Juifs est quelque chose qui est, je dirais, objectivement, qui est une des caractéristiques de la diaspora. Privés du travail de la terre, nous sommes considérés comme des parasites. Mmh. Donc quelque part, pour que le peuple redevienne un peuple, et pour que l'homme juif redevienne un juif, il faut qu'il ait, je dirais, toute la palette de ce qui constitue un homme, y compris la valeur de travail de la terre. Alors, la diaspora est difficile. Tout le monde, évidemment, sait que les juifs sont persécutés. Mais ce qui est le plus difficile, dit Gordon, c'est que la diaspora a tué notre façon de vivre indépendant, en tant qu'homme libre.
D'accord.
Nous avons perdu la force de nous créer une vie par nous-mêmes, sur la base ou sur le fondement de notre propre responsabilité. Nous dépendons des autres. Et donc, nous ne pouvons pas être libres en dépendant des autres. Donc, nous sommes devenus incapables de quitter la diaspora parce que nous ne pouvons que recréer de nouvelles diasporas. On va de diaspora en diaspora. Donc, il n'y a aucune terre en ce monde où nous pourrions nous délivrer de cette, je dirais, de ce fardeau essentiel qui est de ne pas pouvoir travailler la terre et de ne pas pouvoir être responsable complètement de notre propre destin. Mmh. Et notre propre destin, c'est de pouvoir assumer toutes les fonctions d'un homme. Et la première fonction de l'homme, c'est le travail de la terre, de sa terre. Et voilà ce que dit d'ailleurs Gordon sur cette question.
Alors, il dit... C'est que la culture, pour être vivante, doit englober toute la vie.
Voilà, toutes les fonctions de la vie.
Absolument. La culture, tout entière, surgit dans ce que la vie crée pour elle-même. Le travail de la terre, l'édification d'une maison, la construction d'édifices publics, le pavement des routes, etc., etc. Tout ce travail, tout cet artisanat, toutes ces actions constituent, à proprement parler, la culture. Tel est son fondement, sa matière première. L'ordre, la manière, la médiation par laquelle ces choses-là sont composées accouchent des formes de la culture. Les émotions, les sensations, les réflexions et les expériences des créateurs au moment où ils accomplissent leurs œuvres, la nature agissante qui habite chaque création de ce type et les correspondances qui en découlent, voilà la quintessence de la culture. C'est de cette essence que se nourrit ensuite la culture supérieure, l'art et la science, les croyances et les opinions, la poésie, la morale et la religion. La culture supérieure, entendue dans sa signification restrictive, celle-là même à laquelle on fait allusion lorsqu'on parle chez nous de culture, n'est que le beurre de la culture, au sens large du terme. Mais peut-on fabriquer du beurre s'il n'y a pas de lait ? De plus, un homme peut-il en produire à partir d'un lait qui appartiendrait à un autre et prétendre que ce beurre n'est qu'à lui ? À quoi aspirons-nous en Eretz Israël, si ce n'est à trouver ce qui se trouvera nulle part ailleurs, le lait vivant de la culture ? À l'heure où nous n'avons rien, ce n'est pas une culture cultivée que nous devons créer ici, mais une culture vivante qui intégrera par ses cellules et ses atomes cette culture générale. Une culture vivante à laquelle il ne manquera plus rien, que la méthode pour en extraire le beurre. Autrement dit, la culture supérieure.
Bah oui. Donc l'idée, c'est que, effectivement, ce que remarque Gordon, d'ailleurs, c'est qu'en hébreu, le mot avoda, qui veut dire travail, est également utilisé lorsqu'on parle du culte de Dieu. On dit l'avod est Hachem. C'est-à-dire, donc c'est la même expression, c'est-à-dire que ce n'est pas un hasard, si c'est le même terme, que le culte de Dieu consiste à cultiver la terre qu'il nous a donnée, d'une certaine façon. Et donc, l'homme doit travailler tout comme Dieu a travaillé lorsqu'il a créé le monde. Mmh. La semaine de travail de l'homme, c'est une imitation du travail que Dieu a accompli pour créer la terre. Donc, l'homme ne comprend le monde, ne peut donner du sens à sa vie dans ce monde que par son travail et par son œuvre de renouveau. Mmh. Et donc, ce monde du travail est, au fond, je dirais, un monde dans lequel il y a de l'échange, mais pour éviter l'aliénation qui existe dans le monde moderne, hein, par la technique, par toutes sortes de facteurs économiques, il faut que nous soyons les propriétaires de notre travail, de notre force de travail. Mmh. Et donc, ce qu'il dit, si on fait du beurre avec le lait des autres, ben nous ne sommes pas des hommes libres. Mmh. Il faut avoir notre propre lait pour faire notre propre beurre. Et là, l'homme, évidemment, en diaspora, l'homme juif, il va travailler pour les autres avant de produire pour lui-même. Mmh. Et donc, il faut renverser ce rapport de l'homme au travail et au travail de la terre. Alors, le but suprême du travail, c'est quoi ? Ce n'est pas seulement gagner de l'argent. À l'occasion, ça peut servir. Mais c'est de redonner aux hommes le sens des liens qui les unissent entre eux, en participant à une même œuvre, à un même, je dirais, à une même entreprise. Et en cela, l'homme prend goût à la vie et donne du sens à la vie par son travail. Et évidemment, par aussi le sacrifice que cela implique, par le prix qu'il doit payer en matière de force, de souffrance, de fatigue. La chose fait avant tout la chose pensée, c'est dans la nature que la main de l'homme peut créer les conditions de renouveau d'une humanité. Mmh. Alors évidemment, c'est évident que l'homme découvre le sens de la vie non seulement dans le fruit de son travail, mais aussi dans le travail en lui-même. C'est pas seulement le résultat qui compte, c'est le travail lui-même. Souvent, on est plus content du fait d'avoir travaillé que du résultat. Mmh. Alors, et les rapports entre les individus, ne peuvent pas reposer sur une forme de parasitisme, c'est-à-dire sur l'idée que certains travaillent et d'autres ne travaillent pas. Donc l'homme ne peut pas voir de sens de la vie dans les fruits du parasitisme, donc que dans les fruits du travail. Donc, ce qui veut dire que là, on n'a pas besoin de lutter, de légiférer contre l'exploitation du travail d'autrui, parce que de toute façon, l'exploitation est quelque chose d'exécrable. Mmh. Donc ça, c'est tout à fait évident. Ce qui est important, c'est la liberté du travail. C'est la capacité que les gens puissent travailler. C'est ça qui est important. Alors l'exploitation, évidemment, elle existe, et les rapports doivent non pas seulement être des rapports économiques, mais ils doivent aussi être des rapports humains, et ce que Gordon dit, des rapports cosmiques, si on prend dans le sens du sens que peut avoir le travail pour l'univers.
Nous allons refaire une petite pause musicale et nous revenons juste après.
חשבתי מה את אוהבת, חשבתי מה את רוצה אמרת שאת דואגת, שמשהו קרה היום הולכים להצגה שנייה אמרת שדי נמאס לך, והמצב קשה שנים את כבר לומדת, ומה יצא מזה? צוחקת שנגמר לנו הזמן משהו קושר אותי לך די נעזוב, מי ממשיך עוד מאה ושנינו בשמש לא קמה וללכת ללכת כמה שאפשר יש מי שדואג לנו שמה יש מי שדואג לנו שמה שלא נשאר לך כסף לבגדים על כמה שקשה לך שככה לא חיים נמצא דירה ממש ליד הים אמרת שאת אוהבת אמרת שאת רוצה עכשיו כבר לא דואגת שמשהו קרה אז נתחבק ולא נאמר מילה שלי פשט על הפילה. בואי נעזור כי ממשיך עוד מעט, ושנינו בשמש לא קמה, וללכת ללכת כמה שאפשר, יש מי שדואג לנו שמה, יש מי שדואג לנו שמה. שמש לא קמה, וללכת ללכת כמה שאפשר, יש מי שדואג לנו שמה, יש מי שדואג לנו שמה.
לא קמה, וללכת ללכת כמה שאפשר, יש מי שדואג לנו שמה.
בואי נעזור כי מרשיך עוד מעט, ושנינו בשמש לא קמה, וללכת ללכת כמה שאפשר, יש מי שדואג לנו שמה, שדואג לנו שמה. בואי נעזור כי מרשיך עוד מעט, ושנינו בשמש לא קמה, וללכת ללכת כמה שאפשר, יש מי שדואג לנו שמה, יש מי שדואג לנו שמה.
מיכאל.
Oui. Gordon a été à l'origine d'un terme, d'un concept qui a ensuite été repris par un grand philosophe qui s'appelait Martin Buber, qui est le terme de Chavaya.
C'est-à-dire
Chavaya, on pourrait traduire ça en français comme expérience, mais c'est au sens d'une expérience existentielle, la Chvot. C'est quelque chose qui est de l'ordre d'une, je dirais presque d'une aventure spirituelle. Mmh. Et donc pour lui, le retour en terre d'Israël, c'était quelque chose de l'ordre de la Chavaya, c'est-à-dire quelque chose d'une aventure spirituelle qui modifie notre sens de la vie, qui modifie notre façon de considérer l'existence. Ça n'est pas simplement un voyage ou une immigration, mais il y a de l'ordre, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la métaphysique, de l'ordre de l'expérience spirituelle. Cette idée de la Chavaya, elle a été reprise par Buber, justement, pour définir l'existentialisme juif, qui a été la grande théorie de Buber, et ensuite de Lévinas. Donc cette idée du sionisme comme expérience existentielle, c'est fondamental, et c'est lui qui a peut-être inventer ce concept de Chavaya. D'accord. Alors, bien évidemment, pour lui, c'est aussi le travail, c'est aussi le pionnierisme, c'est aussi le fait de participer à la construction d'une nouvelle société. Il faut savoir que Gordon a été également... il avait une conception du sionisme qui était une conception plutôt pacifiste, et qu'il a été d'ailleurs lui-même victime d'une agression, et donc il a été blessé
par
des Arabes.
D'accord.
Il a été blessé grièvement en 1908. Il a d'ailleurs été hospitalisé pendant plusieurs semaines, était entre la vie et la mort, notamment lorsqu'il était parti dans les rues d'Yafo et que des brigands arabes l'ont agressé. On ne sait pas exactement pour quelles raisons ils l'ont été poignardé à plusieurs reprises. Il a fini par s'en sortir, si je peux dire, mais il a conservé son idée qu'il fallait trouver un accord de paix avec les Arabes qui se trouvaient sur place et qu'il considérait que nous devions, justement, par la valeur du travail, nous avions quelque chose de commun avec les Arabes qui vivaient en Palestine. Alors, bien évidemment, cette relation de Gordon, pour lui, il s'agissait de voir dans l'expérience du travail, l'expérience du travail était le fondement de ce qu'il a appelé le nationalisme ou le sionisme juif. Gordon compare cela à un miroir dont l'expérience serait le côté transparent et invisible, mais qui agirait en fond comme un espèce de filtre. Mmh. Et donc c'est une expérience, je dirais, identitaire, comme on dirait aujourd'hui. Donc l'identité nationale, c'est quelque chose qui serait comme, je dirais, comme un flot permanent, comme un courant qui part de la conscience, et cet écoulement, il appelle ça justement la Chavaya. Mmh. C'est la nation qui construit l'homme et non l'homme qui construit la nation.
D'accord.
Voilà, donc c'est le peuple. Mais évidemment, de même qu'un homme a une personnalité individuelle, la nation a également une personnalité, je dirais de manière plus universelle que l'homme. Hein. Alors le cosmos, l'univers en général, reste... je dirais l'unité de l'histoire en général, mais l'homme ne peut pas vivre une expérience cosmique universelle s'il n'a pas vécu sa propre expérience sur sa terre par le travail de ses mains. Et ce n'est qu'à partir de ce travail de ses mains et à partir de la conscience de cette appartenance à une terre par le travail, c'est uniquement, je dirais, par cette expérience concrète que l'homme peut, je dirais, se constituer en tant qu'homme. Le reproche essentiel que faisait Gordon au mouvement socialiste internationaliste, c'était justement que cette communauté qu'on appelait le prolétariat, d'une façon générale, hein, la classe ouvrière, c'était une communauté abstraite pour lui. Et donc on ne pouvait pas construire une identité pour
un
homme. Ben justement, parce que c'est quelque chose de flou qui est lié à des caractères économiques et sociaux.
D'accord.
Et donc quelque chose qui ne peut pas être défini pour lui. Le fait que ce soit défini scientifiquement n'était pas tout à fait clair, parce que, encore une fois, les classes étaient quelque chose de fluctuant. Et donc, évidemment, il avait une espèce de sympathie, de solidarité pour les pauvres, pour les gens les plus démunis, comme beaucoup d'entre nous. Mais il considérait que cette idée d'une classe qui pourrait s'appeler la classe des ouvriers ou la classe des travailleurs, était quelque chose d'abstrait, qu'on ne pouvait pas vraiment définir, et surtout lorsqu'il s'agissait de la classe ouvrière à une échelle internationale. Donc pour lui, il fallait passer avant tout par, bien évidemment, une nation. Et donc, et d'ailleurs il disait, dans l'internationalisme, il y a nation.
D'accord.
Donc c'est internation. Donc en tant que juifs, nous sommes... Évidemment, dans la nation juive, il y a des gens qui sont travailleurs et des gens qui ne sont pas travailleurs. Donc, ils sont frères, mais la nation est une part de l'humanité. Donc, l'individu ne peut pas être un être humain de façon abstraite. Il est forcément lié à un endroit, à quelque chose qui a été créé, non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, non pas parce que nous sommes seulement un peuple élu, ou parce que nous avons souffert, ou endurer toutes les persécutions que nous connaissons, mais c'est uniquement parce que nous ressentons, à travers notre action, notre travail, nous pouvons nous ressentir un homme juif à un endroit.
D'accord. Voilà. Je vais vous lire également un autre texte qui illustre bien ce que tu viens de dire. « Nous sommes venus en Eretz Israël pour faire renaître le peuple et la terre. Mais le peuple prime. La renaissance du peuple passe avant la rédemption de la terre. » Tout repose sur ses épaules, car ce n'est ni sur le soutien extérieur, ni sur la générosité des peuples qu'il faut s'en remettre pour trouver le salut. Compter sur la bonté des nations est un péché, est-il écrit. Pour obtenir sa délivrance et sa renaissance, un peuple ne doit pas tabler sur la grâce et la charité. Tout dépend de notre volonté. Nous sommes venus en Eretz Israël il y a 16 ans, sans être assistés d'aucune grâce et sans espérer aucune déclaration. Il fait ici allusion à la déclaration de Balfour. Tant nous étions assurés de nos forces et de la vigueur du peuple. Aujourd'hui encore, ce qui compte est notre énergie, celle du peuple, sa volonté, sa détermination et son dévouement à la cause. Eretz Israël est notre terre. À nous de la ranimer et de restaurer sur elle notre droit, par le travail, la création et la vie. Mais qu'il est difficile d'exprimer cette chose si simple, cette idée si claire. La rédemption du peuple est son affaire, l'affaire de sa volonté, de son travail, de sa créativité. Qu'il est difficile de lui donner la forme d'une exigence vitale, déterminée et permanente, d'en faire une force agissante dans l'âme populaire. Tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, toute notre œuvre accomplie en Eretz Israël, ne sont que les préparatifs de cet instant présent, une sorte d'entraînement intérieur pour vous dire, comme on peut, ce que, de vous, la terre exige et le moment historique réclame. Magnifique.
Oui, alors évidemment, personnalité hors du commun, personnalité qui, contrairement à d'autres sionistes, socialistes, n'a pas rejeté la religion juive et justement a voulu intégrer une partie du judaïsme, du récit biblique notamment. Donc il ne dénigre pas le judaïsme, au contraire, il veut prendre à la lettre l'expression Torah de la vie, et donc la Torah ne servant la vie que dans la mesure où elle est portée par elle, c'est-à-dire dans la mesure où dans la vie nous pouvons accomplir un certain nombre de gestes qui reproduisent, qui renouvellent cette vie. Pour lui, le travail de la terre, c'est évidemment quelque chose d'important, et puis ce lien entre, je dirais, l'homme et la nature, quelque chose qui a des accents, comme je disais au début, un peu rousseauiste, ce retour à la terre, même si il n'y a pas vraiment de naïveté chez Gordon, comme il y a peut-être chez Rousseau, sur ce retour à la terre. Mais l'homme, pour pouvoir s'élever, doit pouvoir partir de la base, c'est-à-dire la terre. Pour pouvoir aller vers les sphères supérieures, il faut commencer par les sphères inférieures. Bien évidemment, d'une certaine façon, je dirais qu'il est un petit peu lyrique, un petit peu mystique. Il y a des accents assez curieux dans la façon dont il condamne, par exemple, l'éloignement de la nature, cette volonté de revenir à une vie simple, quelque part. Ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, ce serait peut-être un écolo avant l'heure, d'une certaine façon. Mais malgré tout, je crois qu'il y a un message important dans la vision, c'est-à-dire que le sionisme n'est pas du tout, n'est pas uniquement quelque chose qui a pour but de faire c'est pas une idéologie progressiste, c'est une idéologie qui considère que pour donner du sens à la présence juive en terre d'Israël, il faut être en relation avec la terre. Alors évidemment, on sait ce qu'a été le sionisme en matière de développement agricole, on sait qu'ensuite ça a été peut-être même industrialisé, qu'aujourd'hui Israël, ça n'est plus l'Israël de la seconde Aliya, dont Gordon était probablement un des représentants les plus, je dirais, les plus symboliques. Et que quelque part on a aujourd'hui peut-être, on s'est peut-être un petit peu éloigné de cette culture de la terre, mais il n'en reste pas moins que lorsqu'on analyse les textes de Gordon, qui sont peut-être un peu décalés, je dirais un petit peu par rapport à la pensée moderne, il y a malgré tout quelque chose qui a permis au mouvement sioniste de lui donner son dynamisme, sa force, sa vitalité, quelque part. Je dirais qu'il y a dans la vision d'un Gordon, il y a malgré tout l'idée qu'une nation a la capacité de se régénérer, malgré tous les tourments et tous les risques, enfin, je dirais, toutes les menaces qu'elle a subies au long de l'histoire. On voit que par des gestes simples, qu'est-ce qu'a fait Gordon au fond ? Il a quitté sa Russie natale, il a pris la pioche, la pelle, et il s'est mis à travailler la terre, et puis à apprendre l'hébreu, et à idéaliser même cette terre, à lui écrire des poèmes, d'une certaine façon. C'est un grand poème symphonique de la terre. Donc, quelque part, cette musique-là du sionisme, si je peux dire, elle est extrêmement importante. Elle a donné énormément de courage, mais en tout cas, elle a été peut-être une des... Je dirais, la théorie de Gordon, peut-être une des théories qui a été les moins appliquées par la suite, mais qui a servi finalement de socle pour le développement du mouvement sioniste.
Justement, en fait, il semble qu'il ait refusé toute fonction politique pour se Absolument. Consacrer justement aux travaux des champs. Mais tu nous as dit tout à l'heure qu'il a inspiré ce fameux mouvement des jeunes travailleurs.
Oui.
Il l'a inspiré ou il l'a aidé à la créer? Et en dehors de ce mouvement, est-ce qu'il a également été à l'initiative de d'autres choses?
Non, il a refusé, comme tu le disais, toute fonction politique, toute responsabilité. Il se considérait comme un ouvrier.
Mmh.
Il ne voulait pas... Évidemment, il a continué à écrire. Il a écrit de très, très beaux textes, très grands... des très, très beaux textes qui étaient enseignés ensuite dans toutes les écoles et qui font partie, je dirais, du panthéon des textes sionistes, voilà, des anthologies du sionisme. Mais il a toujours refusé toutes les fonctions officielles et il n'a absolument pas voulu se mêler du jeu politique. Ce n'est pas du tout quelqu'un comme Ben Gurion ou même comme Katzenelson ou d'autres qui ont eu des responsabilités dans le mouvement travailliste, disons, mais c'était un idéologue au sens noble de l'idéologie. C'est-à-dire c'était un idéologue qui était sur un certain nombre de principes et qui les a mis en application. Et qui a été... qui était un homme de grande culture, inspiré, qui lisait les grands textes, même inspiré par Nietzsche, et qui donc a vu pour changer l'histoire, il fallait changer l'homme. Pour changer l'homme, il fallait changer l'histoire des peuples. Et le peuple juif qui avait subi ou qui avait traversé cette histoire compliquée d'aliénation, au fond, qui avait perdu sa liberté et son indépendance, mais qui n'était pas seulement une indépendance politique, sociale ou économique, mais qui était aussi une indépendance spirituelle, une indépendance d'idées. Donc pour retrouver cette indépendance, ce fondement même de la liberté, eh bien, il était nécessaire de revenir, comme on dit vulgairement, aux fondamentaux, c'est-à-dire aux bases même de la vie, qui était cultiver la terre. Et en cela, il revenait, je dirais, d'une certaine façon, il revenait à la Bible. Il revenait à ce qu'avaient été les premiers Hébreux. Les premiers Hébreux qui étaient des paysans, qui étaient des éleveurs, des éleveurs et des paysans. Et donc, je dirais, cette primauté, je dirais, de la vie, pour ça, c'était extrêmement important. Revenir aux choses essentielles et premières de la vie. Mmh. C'est ça le message, je dirais, de Gordon. Le mouvement de jeunesse gordoniaque, qui était un mouvement qui se situait, je dirais, peut-être un mouvement à la fois socialiste, mais non marxiste, et justement qui s'éloignait d'autres mouvements au sein du mouvement sioniste qui étaient plus influencés par le marxisme et plus liés au mouvement socialiste international, gordonien, s'est inspiré des idées de Gordon uniquement. Et donc c'était au sein du mouvement sioniste ou Khaloutzik, un mouvement qui voulait uniquement faire du pionnierisme, créer des kibboutzim, créer en Pologne des garinim, ce qu'on appelle des noyaux pour monter en Eretz Israël, mais qui ne voulaient pas entrer dans ce qu'on appelait l'international socialiste, ni même dans les mouvements, je dirais, dans le jeu politique des relations que pouvait avoir le mouvement sioniste socialiste avec les partis socialistes ou les mouvements socialistes en Europe.
D'accord.
Donc ça, le Gordonia s'est éloigné de ça pour uniquement se consacrer, je dirais, à l'action pionnière. Ça, c'est fondamental. Beaucoup de gens ont été, je dirais, ont fait partie de ces mouvements, parmi les Olim et parmi les Juifs de Pologne et d'Europe centrale qui ont été sionistes et qui se souviennent justement de tout cet esprit pionnier. C'est ça, l'esprit, c'est l'idée du travail comme valeur, et comme valeur humaine, pas seulement comme valeur économique de production et de progrès, mais comme valeur humaine de relation avec l'univers, la nature et avec les autres hommes.
Merci beaucoup, Michael. Nous allons nous quitter en musique. Merci, chers auditeurs de Radio Tav, de nous avoir écoutés. Et je vous dis à très bientôt pour parler encore d'Israël et du sionisme. Leitraot.
תחרות כלבים רצים במעגל עיניים רעבות דיבור מרומז בנעליים היפות אני רץ יחף חלומות עמוקים אני מגיע ראשון נוסע במונית לא זוכר את הכתובת כל כך הרבה זמן בחושך הייאוש הבשר הגאווה אויבים גדולים שניפחתי להדליק את השמש בצחוק בבכי ובמנגינה המדרגות גבוהות לחישות שקטות על הצבא שומע חצוצרות בלילה במיטה מכוון את התנועה בלי לדעת הכתובת כל כך הרבה זמן בחושך הייאוש הבשר הגאווה אויבים גדולים שאני טיפחתי להדליק את השמש בצחוק ובכי ובמנגינה Yeah.